Flelou.
On va parler de téléphonie dans ce journal avec des recours au tribunal de la part de Vodafone et de Viti. On parlera aussi de taxes aériennes, de tourisme et d'agriculture bio. C'est en fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On parlait télécom ce matin au tribunal administratif.
Et oui, la guerre des opérateurs fait toujours rage, et même plus que jamais avec ce double recours de Pacific Mobile Telecom. Le gestionnaire du réseau Vodafone s'attaque à la délégation de services publics accordée par l'OPT à sa propre filiale Onati, une DSP qui date de 2019 après la réorganisation de l'office et qui a été passée sans publicité et sans mise en concurrence. L'OPT pouvait s'appuyer sur une loi votée l'année précédente dans laquelle le pays exonérer ses propres établissements publics de l'application des règles communes de marché public. Ce matin, le rapporteur général a expliqué que Vodafone s'y prenait trop tard pour demander l'annulation de cette convention. En revanche, l'opérateur privé peut attaquer la loi du pays en question. Le rapporteur public a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la validité de cette loi au regard des principes généraux du droit en matière d'accès à la commande publique et surtout de transparence des procédures. Le tribunal administratif pourrait donc renvoyer l'affaire devant le Conseil d'État, décision attendue le 12 septembre.
Et le tribunal devrait aussi s'exprimer sur la portabilité des numéros.
Et oui, la portabilité, c'est le fait de pouvoir garder son numéro de Vini quand on change d'opérateur. C'est possible et même garanti par la loi en métropole, mais pas en Polynésie, où il faut changer à minima le 87, 88 ou 89 pour quitter son opérateur. Et pourtant, une loi du pays de 2013 prévoit cette portabilité, une loi que le gouvernement n'a jamais jugé utile d'appliquer en prenant les arrêtés techniques correspondants. Cette fois, c'est Viti, le plus petit et le plus récent des trois opérateurs polynésiens, qui est à l'offensive devant le tribunal administratif. Son avocat maître Mikou rappelle les enjeux.
Le fait de perdre cet indicatif est pour beaucoup de clients, dont je fais partie d'ailleurs, un frein total au changement d'opérateur. C'est une évidence et toutes les études effectivement l'ont démontré. C'est quelque chose dont ont conscience énormément d'administrations, d'autorités. Même la Polynésie française a reconnu dans ses propres écritures l'importance de mettre en œuvre effectivement la portabilité pour permettre un déverrouillage complet du marché des télécommunications en Polynésie française.
Mourad Mikou, avocat de Viti, le gestionnaire de Aura Mobile, qui après avoir saisi le pays sans succès, demande donc au juge de l'obliger à appliquer la loi. La rapporteure publique lui donne raison et préconise une obligation de prendre les arrêtés sous 6 mois, faute de quoi la Polynésie devrait payer des astreintes journalières. Viti applaudit mais estime qu'après 10 ans, le gouvernement peut aller plus vite que ça.
Le jeu de certains, c'est d'essayer de faire perdurer ce délai le plus longtemps possible. Aujourd'hui, la Polynésie se réjouirait à devoir encore se voir accorder un délai de 6 mois pour prendre l'arrêté d'application pour permettre cette portabilité. Mais en réalité, on le sait très bien, la Polynésie n'a pas besoin d'un délai aussi long. Ce n'est qu'une question de volonté. La question que je pose aujourd'hui, y a-t-il réellement la volonté de permettre une libre concurrence en Polynésie française ?
Et portabilité ou pas, réponse des juges le 12 septembre, là aussi.
L'OPT attaqué au tribunal donc, et qui va aussi devoir revoir certains projets immobiliers.
Et un en particulier, celui du vaste ensemble que l'office prévoyait de construire sur Prince-Hinoy, un projet qui remonte à l'année 2000, quand l'établissement public avait racheté le terrain toujours vierge situé entre Easy Market et Hyper Brico. L'idée était d'y déplacer son siège aujourd'hui situé à Faréouté, d'y accueillir plusieurs services, mais aussi de construire 2 étages du futur immeuble, de les vendre au syndicat de promotion des communes, le SPC. L'office s'apprêtait à lancer les premiers appels d'offres pour les fondations. C'était sans compter sur la nouvelle équipe gouvernementale qui a voulu réexaminer le projet et qui a demandé à l'OPT de revoir sa copie. C'est ce qu'explique la ministre en charge de la fonction publique et des télécommunications, Vanina Krolla.
On a décidé au conseil d'administration de redimensionner le projet que pour les besoins de l'OPT. Le projet n'était plus viable financièrement. Les accords que l'OPT a pu avoir avec les bailleurs de fonds ne tiennent plus. Le projet avait été estimé à 11,3 milliards. Et puis finalement, avec l'augmentation des coûts, on est à 12,9 milliards. Donc 1,6 milliard de plus, dont 500 millions de plus pour la maison des communes.
Voilà, une maison et un centre de formation et de gestion du SPC que le gouvernement ne veut pas abandonner, mais veut séparer du futur siège de l'OPT pour revoir les dimensions du projet à la baisse, d'autant que le gouvernement critique aussi la concentration des administrations près du centre-ville. Il est vrai que l'OPT à elle seule prévoyait d'abriter 500 agents sur Prince-Hinoy et le nouveau siège promettait d'attirer beaucoup de passages au risque d'encombrer davantage la circulation à Papeete. Alors quel avenir pour ce grand projet ? Tout dépendra du prochain conseil d'administration d'administration de l'Office à la mi-septembre, durant lequel la direction doit présenter une nouvelle mouture réduite de ce plan immobilier. Un conseil d'administration doit être plus globalement discuté l'avenir de l'Office, qui aurait engrangé 6 milliards de francs de déficit en 2022. Vanina Krolla travaille aussi au remplacement du PDG Jean-François Martin, qui a annoncé son intention de partir à la retraite le 31 décembre.
L'OPH va aussi changer de directeur.
Et c'est même fait, il s'agit de Yann Jambé, qui a été négociateur immobilier et même directeur administratif et financier d'Imagine Promotion, acteur très connu du développement de l'immobilier locatif privé. L'arrêté de nomination de ce nouveau directeur de l'Office polynésien de l'Habitat vient d'être publié ce matin au journal officiel. Yann Jambé remplacera donc Moana Blanchard, qui part en retraite. Autre nouveauté, ce n'est plus Eliane Tevaïtoua qui est en charge de l'enseignement supérieur. C'est à présent le ministre de l'Éducation, Rony Terry-Ipaya, qui récupère ce portefeuille important.
Et puis on part à Paris avec cette annonce plutôt rassurante du ministre des Transports.
Du ministre national des Transports, Clément Beaune, qui avait évoqué ces derniers jours une hausse des taxes sur les billets d'avion. L'idée était de dégager des fonds pour investir dans les moyens de transport plus écologiques, comme le train. Le projet avait été applaudi par certains, mais pas par les élus ultramarins, dont Mereana Redarbelot, la députée Tavini, qui est au civil contrôleuse aérienne, avait rappelé que les Polynésiens ne pouvaient pas compter sur le ferroviaire pour rejoindre la métropole et que l'aller-retour était déjà très cher. Elle a visiblement été entendue, comme ses collègues des Antilles, de la Réunion ou de Corse. Clément Beaune a expliqué au micro de nos partenaires d'Outre-mer 360 que les trajets vers les collectivités d'Outre-mer devaient être exonérés. Écoutez.
J'insiste, nous serons très attentifs au pouvoir d'achat. Nous travaillons à ce dispositif qui puisse financer la transition écologique, mais ne pas pénaliser les Outre-mer qui vivent une difficulté de pouvoir d'achat particulière et pour lesquels, je le sais, la liaison aérienne n'est pas une option. C'est une nécessité absolue pour assurer la connectivité, la continuité territoriale. C'est un service public au fond et je le défends.
Voilà, et à noter que les vols pour les Outre-mer avaient déjà été sortis du champ d'application de l'écotaxe mise en place en 2020 sur les billets d'avion pour financer déjà les infrastructures de transport.
Des bonnes nouvelles du côté du tourisme.
Et oui, les chiffres se suivent et se ressemblent de ce côté-là, mais ça fait toujours du bien de les rappeler. Le tourisme, moteur économique du Fénois, se porte très bien. D'après le dernier tableau de bord de l'ISPF, 55 200 voyageurs sont arrivés au Fénois au premier trimestre 2023. C'est 49% de plus que l'année précédente. Et c'est un chiffre qui est aussi en augmentation par rapport à 2019, une année de référence dans le secteur. Le nombre de nuitées touristiques bondit même de 18% entre l'avant et l'après-Covid. Et le nombre de chambres d'hôtels réservées est 4% plus élevé, alors même que certains établissements ont fermé leurs portes pendant la pandémie. Bref, voyant au vert sur la filière qui peut en plus compter dans les mois à venir sur la reprise des vols directs vers le Japon et sur la réouverture toujours à dater de certains hôtels. En attendant, 2023 est bien parti pour fixer un nouveau pic de fréquentation touristique en s'approchant des 250 000 visiteurs sur l'année.
Et puis on finit par ces portes ouvertes.
Portes ouvertes dans les FAAPU. Ce sera ce samedi 2 et ce dimanche 3 septembre. C'est l'association Biofetia qui est à l'origine de cette initiative. Biofetia, c'est l'organisme, vous le savez, qui certifie les productions biologiques au Fénois à l'aide du label Biopacifica. Il s'agit justement de mieux faire connaître le label et les agriculteurs inscrits dans cette démarche. On écoute Vairea Ebb, une des porte-parole de l'association.
Les objectifs des portes ouvertes des FAAPU Bio, c'est vraiment de faire découvrir l'agriculture biologique au grand public et de créer une première relation entre l'agriculteur et le consommateur. Les consommateurs peuvent avoir certains préjugés au niveau de l'agriculture biologique. Les produits certifiés biologiques peuvent paraître chers, mais du coup cet événement, ça permet de montrer tout ce qu'il y a derrière.
Quatre exploitations sont donc à visiter ce week-end. Vous pourrez aller voir par exemple Alexandre Inam à Taravao, qui cultive sur une parcelle familiale des aubergines, des tomates, des haricots longs, du maïs ou des concombres. Il y a aussi Jean-Baptiste Tavané à Papéari, Touani Pujibé à Mataya, qui cultive du taro, des patates douces et du manioc, ou Augustin Vonken de Vairao, qui produit entre autres des tomates, des asperges et qui élève des poules. Visite guidée seule ou en famille, donc vente de produits bien sûr, mais surtout rencontre avec des professionnels. Écoutez.
L'agriculteur vous accueillera sur le FAAPU, il vous fera toute la visite de l'exploitation en vous expliquant les pratiques utilisées et en vous expliquant un petit peu l'histoire du FAAPU, comment il a démarré et puis son évolution aussi par la suite.
Voilà, les inscriptions se font par mail à l'adresse info@biofetia.pf ou par téléphone au 87 37 49 35. À noter que l'agriculture bio gagne du terrain en Polynésie. L'association Biofetia comptabilise en août 2023 400 hectares de production certifiée, 215 adhérents, 111 dossiers garantis Biopacifica, soit le double de l'année 2021. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, ou en tout cas vous retrouverez une de mes collègues, à 16h. Ce sera pour le flash.
Merci beaucoup, Charlie.